Nous retrouvons Régis Debray qui a notamment publié « Bilan de faillite ». Vous avez évoqué tout à l'heure la phrase de Napoléon, la tragédie, maintenant c'est la politique. Est-ce que la politique, ce serait plutôt devenu du boulevard si vous deviez accorder après Ludovic Piétenu les Molières de la politique, Régis Debray ?
Évidemment, vous pensez peut-être à Emmanuel Macron, qui est un bon acteur. Je le vois plutôt comme un Janus que comme un Jupiter, si vous voulez. C'est-à-dire, je crois qu'il y a chez lui du jeu, précisément, puisqu'il, au fond, son programme ou sa fonction historique, je ne sais pas, l'avenir le dira, c'est d'assurer le passage coûte que coûte de la France-nation à la France-entreprise, à la start-up nation, mais avec du Marivaux et des Alexandrins. Et là, je crois que c'est une originalité. Il joue, très certainement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend le plus au sérieux, mais il a bien conscience, en tout cas, qu'au fond, nous ne sommes plus à l'ère du théâtre, mais plutôt à l'ère des variétés, du cinéma. Au fond, un homme politique, aujourd'hui, c'est une rockstar. Obama, si vous voulez. Où le musicien compte plus que la musique, où je dirais le look compte plus que le projet. Et en ce sens, oui, il faut être sur scène. Et je crois qu'on s'inspire plus aujourd'hui du cinéma que du théâtre. Si vous voulez, je voyais l'autre jour une photographie de notre Premier ministre, je crois qu'il s'appelle Édouard Philippe, qui avait des manchettes, oui, je m'excuse, le médiologue s'occupe aux petits détails, des manchettes où il était inscrit « May the force be with you », c'est-à-dire une réplique de Star Wars. Star Wars, c'est vraiment l'idéal du moment, disons.
Pourquoi ?
Bah, parce que, d'abord, c'est l'Amérique, donc c'est la modernité. Donc c'est là où il faut arriver.
Je profite pour rappeler d'ailleurs que vous avez publié un France-Amérique, un échange de bons procédés aux éditions France Culture.
Oui, oui, c'est un excellent livre, mais c'est pas le mien, c'est un groupe de gens tout à fait informés et dont je précise qu'ils ont beaucoup de sympathie pour les États-Unis, comme moi, sous un certain angle.
Donc, pourquoi voilà. Star Wars ?
Ah bah, il faut lui demander.
Non, non, pourquoi est-ce si important ? Donc c'est l'Amérique, c'est entendu.
Parce qu'il faut être jeune, c'est le film que regarde les jeunes, et puis c'est l'idée de l'héroïcité aujourd'hui qui est high-tech, tournée vers le galactique, les grands horizons. Bref, ça fait partie, je dirais, de l'imaginaire commun, l'imaginaire de pointe. Mais c'est vous dire à quel point, au fond, on a assisté à un changement de l'écosystème, c'est-à-dire l'ingénierie des signes n'est plus la même, elle n'est plus la page d'écriture. Le pouvoir de réquisition aujourd'hui, c'est l'image. Voilà. C'est l'image et le son. Donc, tant pis pour les écrivains.
Dans Bilan de faillite, vous écrivez la chose suivante. Vous citez Morand, les écrivains ne réussissent leurs livres que dans la mesure où ils ont raté leur vie. Et les politiques, dites-vous, Régis Debray, ne réussissent leur vie que dans la mesure où ils ratent leur livre. Expliquez-nous en quoi il y a, en quelque sorte, des vases communicants entre la vie et les livres.
C'est une boutade, mais au fond, regardez. Stendhal a raté sa vie. Henri Bell.
Il était plutôt heureux, positif.
Henri Bell a toujours lutté pour avoir des postes, être consul à Civitavecchia. Il a vécu comme un exil, une brimade. La monarchie de Juillet ne lui a pas fait de cadeau, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il a déversé ses ambitions, je dirais, ses personnages rêvés, Fabrice ou Julien, dans ses livres. Dostoïevski aussi, dans un autre genre de beauté. À l'inverse, si vous voulez, un homme comme Mitterrand, qui fut un grand politique, au fond, n'a jamais réussi à faire le grand livre qu'il souhaitait sur le coup d'État de Napoléon, voire même sur Machiavel et la Renaissance. Il a fait un livre posthume qui n'est pas un livre, qui est un admirable recueil de lettres à Anne, qui est un admirable journal où vous vous rendez compte que c'était un homme d'intériorité et pas seulement d'exhibition. C'était un homme qui grandit dans l'univers artistique et littéraire. C'est pourquoi je le mets, si vous voulez, dans la même phase historique que De Gaulle, en ce sens, même si leur littérature n'était pas la même. Mitterrand détestait Malraux, d'ailleurs. Et je crois pas que De Gaulle aimait bien Chardonne, hein. Mais enfin, chacun ses goûts, on n'en discute
vous
pas.
Vous dites que
mais en tout cas,
Mitterrand était
un grand liseur, et pas un butineur.
Vous dites que Mitterrand était, je vous cite Régis Debray, emmerdé par la politique, vous en êtes sûr?
Oui, écoutez, il avait du recul. Vis-à-vis des gens qu'il rencontrait, il avait cette sorte de distance conférée par l'ironie, par l'acuité du regard vis-à-vis des agitations politiciennes. Enfin, ça, c'est ce que révèlent en tout cas les lettres à Anne et ce qui me le rend encore plus attachant.
J'ai dit tout à l'heure que vous n'aviez pas participé à mai 68. Vous aviez un mot d'excuse puisque vous avez été emprisonné en Bolivie 4 ans. Et c'était donc jusqu'en 1971, sauf erreur de ma part. Et nous avons retrouvé justement un extrait de votre voix, Régis Debray. C'était le 25 décembre 1969.
Je ne sortirai pas d'ici tant que ce pays aura des rapports avec l'impérialisme américain. Rapports qui subsistent. En profondeur, et la fraction la plus réactionnaire de l'armée qui me maintient ici sait parfaitement ce qu'elle ferme maintenant en prison, puisqu'au prochain coup d'État, ils auront l'occasion de régler le problème, certainement de manière plus définitive, en sorte que ma situation est ouverte à toutes les surprises.
Vous aviez été torturé, emprisonné, condamné, je crois, à 30 ans de prison, Régis Debray, c'était pas de la blague. Quand vous regardez rétrospectivement cet engagement, ce qu'il vous a coûté, qu'est-ce que vous en pensez justement lorsque vous adressez ces conseils à votre fils de 16 ans?
Bah écoutez, j'ai une certaine envie pour ce personnage-là dont vous venez de faire entendre quelques bredouilles. Pourquoi? Parce que c'était une époque où on savait où aller. Alors peut-être qu'on se trompait, mais nous avions une fin, une finalité. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus quoi attendre. Et si vous voulez, on ne sait plus où il serait bon de se rendre. Nous sommes des marcheurs sans destination, si j'ose dire, c'est-à-dire sans une image du futur. Nous sommes contraints à vivre au jour le jour, et l'évanescence des finalités, et même des utopies, c'est-à-dire au fond des buts de guerre ou des points d'arrivée, soit c'est ce qui me frappe le plus aujourd'hui. C'est en quoi je peux dire que celui qui parlait tout à l'heure, il avait la révolution en tête. Aujourd'hui, on n'a plus que la révolte. C'est pas du tout la même chose.
Mais est-ce que ça veut dire que vous étiez plus heureux en 69 ? Alors, probablement pas en prison, mais en tout cas lorsque vous étiez engagé aux côtés des guérilleros.
Oui, dans la mesure où le bonheur suppose un dépassement de soi-même, dans la mesure où le bonheur est une exaltation qui vous exauce, qui vous dépasse en quelque sorte, qui vous transcende, où on participe à un collectif, où on participe à un « nous », avant de retomber dans le moi-je, si vous voulez. Donc, effectivement, cet sentiment de fraternité, je le trouve rétrospectivement très exaltant.
Mais alors, c'est quand même assez paradoxal, parce que peu de temps après, vous écriviez un livre sur mai 68, un livre très dur. Et dans ce livre, bon, vous direz pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et dans ce livre, vous disiez en substance que Daniel Cohn-Bendit allait devenir une sorte d'icône néolibérale. Expliquez-nous.
Non, simplement, c'était en 1978. Et alors, comme un bon hegélien, excusez-moi, bagage scolaire, la vérité d'un événement, c'est ce qu'il devient. C'est pas l'événement lui-même, c'est son résultat. j'ai constaté cette chose étrange que, pour aller vite, la liquidation du père, de l'image du père, était en train d'introniser le pèse, le fric, l'argent. Et que la, je dirais, la destruction des institutions, que ce soit le parti politique ou l'État, la gauche ou la droite, De Gaulle ou Torres, si vous voulez, allait amener le triomphe de l'individualisme de masse, enfin, allait un peu anticiper sur ce que Tocqueville avait décrit quant à l'Amérique du 19e. Donc, c'est ce renversement qui m'a confirmé que on avance à reculons dans l'histoire et que, en regardant la révolution de 48 ou la Commune de Paris, on préparait en fait le triomphe du chacun pour soi. Voilà, j'ai donc constaté ça, mais c'est pas une critique des hommes. Oui, j'ai compris bien sûr qu'on avait changé de période, voilà, et que alors je ne juge pas, je ne porte pas de jugement. Je retrouve la fameuse ironie de l'histoire qui généralement renverse l'intention dans son résultat.
Mais est-ce que cela signifie, Régis Debray, que si vous aviez été à Paris en mai 68, et vous auriez été vous aussi victime d'une ruse de l'histoire, d'une ruse de la raison, vous auriez participé à cet événement dont vous pensiez rétrospectivement qu'il allait finalement libérer les individus et aliéner le collectif, si je résume en une phrase.
Écoutez, j'aurais sans doute participé, oui, parce que la fraternité, ce sont des moments, si vous voulez. C'est pas une valeur, la fraternité. Ce sont des moments exceptionnels. Et ce fut un moment exceptionnel de fraternité, de créativité. Je dirais, comme on le dit un peu trop, où l'imagination a pris le pouvoir, mais il faut interpréter le mot imagination, où un leurre a pris le pouvoir et où on s'est en fait occulté la réalité des choses dans un délire imaginatif et spéculatif. Mais ça, c'est notre sort à tous.
Et alors, justement, lorsque vous parlez de leurre, de bilan de faillite, est-ce que lorsque vous comparez, par exemple, le devenir de Cuba avec le devenir des démocraties occidentales, qu'en pensez-vous, Régis Debray ?
Écoutez, je pense que les révolutions, c'est bien et mal. C'est bien parce que c'est un élan, mais quand ça devient un régime, ça devient très embêtant. Donc, l'inversion du projet dans la bureaucratie est quelque chose qui me frappe, oui. Mais l'élan populaire, je dirais, la rébellion contre le statu quo, le tous ensemble, me semble très juste. Simplement, il faut avoir un peu de discernement quant à l'atterrissage. Voilà.
Vous dites pire que ça en ce sens où vous dites, Régis Debray, que tous les ismes, socialisme, sionisme, j'en oublie probablement beaucoup d'autres, des ismes, tous ces ismes finissent mal.
Disons qu'ils sont ambivalents. De toute façon, si vous voulez, il y a eu des ismes tant qu'il y a eu des textes. Vous mentionnez le sionisme. Herzl a fondé une indépendance, un État, une nation, en écrivant des articles et en faisant un livre. Je dirais que Lénine aussi. Et il a fait un nouveau régime comme journaliste, n'est-ce pas ? Dans la mesure où aujourd'hui, ce sont les animateurs de télévision, les chanteurs, les cinéastes ou les dessinateurs qui sont les ingénieurs des âmes, si vous voulez, je crois que nous sommes à l'abri des ismes, si j'ose dire, et que nous retombons peut-être plus sagement, mais aussi plus tristement, sur les ic, les mots en ic, c'est-à-dire technique et scientifique.
Pourtant,
où les choses se passent.
La semaine dernière, par exemple, lorsque Philip Roth est mort, on sentait une sorte d'émotion. Alors, elle n'était probablement pas galactique, mais en tout cas, pour beaucoup de gens en France, on avait l'impression que c'était un moment triste qu'il y avait en quelque sorte. Alors, il faudrait expliquer pourquoi la littérature américaine est devenue une sorte d'emblème de la littérature tout court aussi, mais il y a eu un moment qui montrait aussi que les livres demeurent importants pour beaucoup de personnes en France.
Bien sûr qu'ils demeurent importants, et j'aurais d'ailleurs aimé que la mort de Julien Gracq ou de Claude Simon suscite la même émotion. Mais ils n'avaient pas la chance d'être américains, donc ils étaient un peu en marge. Mais les textes et le culte du mot juste et l'attention portée au style, à la vibration des mots, ça restera toujours, mais ça restera pour une secte qui devra faire chambre à part, c'est-à-dire qui n'aura plus d'influence sur le peuple et encore moins sur les dirigeants. Vous savez, quand j'y décris retour du RSS en 1936, vous savez combien ils vendent d'exemplaires ? 160 000. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, un écrivain avait une capacité de remuer les âmes, de remuer les sensibilités. Il était encore au centre des choses. Et alors, c'est vrai que la France est le seul pays d'Europe où, quand reviennent les moments de fièvre, la littérature et la politique se donnent la main. C'était le cas avant. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une coupure entre le monde intellectuel et le monde politique qui s'est professionnalisé, tourné vers l'économie, la performance, le résultat, le chiffre. Et cela au détriment des pensées à long terme. Voilà, c'est au fond une situation très, très américaine, au fond. Bon, voilà.
Mais justement, est-ce qu'à contrario, ce n'est pas une vision très aristocratique des choses? Puisque, par exemple, alors, François Mitterrand n'était pas un homme d'argent, mais il était entouré d'hommes qui avaient de l'argent. Pas tous, bien sûr. Mais il y avait Pierre Berger, et il y avait d'autres personnes, et il a vécu comme un grand bourgeois, suffisamment pour, en tout cas, ne pas avoir à se soucier de l'argent. Est-ce que ça n'est pas, là aussi, une manière très française de considérer que l'argent est inessentiel dès lors que l'on en a, parce que François Mitterrand n'était pas Gandhi?
D'abord, il faut distinguer entre l'argent comme moyen d'action et l'argent comme fin. Par ailleurs, ce sont toujours les grands bourgeois qui font les révolutions, je vous signale. C'est une donnée constante et Robespierre et Saint-Just n'étaient pas des miséreux. Léon Blum encore moins. On l'a beaucoup attaqué sur la vaisselle d'or, mais on lui doit la loi des 40 heures. Donc, cessons, si vous voulez, ces sortes d'incrimination personnelle sur les modes de vie de tout un chacun.
Ça n'est pas une incrimination. Je voulais juste dire que le fait de flétrir l'argent, qui est aussi une veine française, vous trouvez ça chez Léon Blois, chez tous les pamphlétaires, est une manière de faire qui ne tient pas compte du fait que, finalement, l'aristocratie française fait ça depuis des lustres, tout simplement parce qu'elle est dans l'économie de dépenses, à la différence du protestantisme américain, effectivement, qui a un autre rapport à l'argent, mais qui n'a pas plus de rapport étroit avec l'argent qu'on le dit.
Oui, c'est vrai qu'il y a une tradition catholique en ce sens, hein, que les protestants, le refus de l'argent n'est pas protestant, il est catholique, c'est vrai. Bah écoutez, les civilisations, c'est des héritages. Alors ça ne veut pas dire qu'on est bloqué dans cet héritage, mais il faut faire avec, et après tout, cet héritage ne me semble pas mauvais.
Lorsque vous dites que les grandes causes ont aujourd'hui disparu, Régis Deprez, lorsque vous donnez ces conseils à votre fils dans Bilan de faillite, il y a une grande cause qui n'a pas disparu, en tout cas pour un certain nombre de personnes à la surface de la planète, c'est le religieux. Le sacré, lui, a conservé une force. Est-ce que ça n'est pas une option à réaménager? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien que la mondialisation, ça crée une sorte de grands trous noirs indifférenciés où les peuples se trouvent plongés et donc ce vide d'appartenance doit être comblé. Malheureusement, il n'est plus comblé par les pensées séculières, progressistes, comme ça a été le cas jusqu'ici. Il est comblé par les identités soit ethno-nationaliste, soit religieuse, soit les deux ensemble. Alors évidemment, c'est un peu dommage, mais je crois que c'est simplement la réaction à une misère symbolique que la pensée politique ne peut plus combler. Elle a échoué et donc, dans ce vide, dans ce hiatus, remonte le refoulé. Et ce refoulé, c'est au fond les sources profondes des croyances collectives, c'est-à-dire le religieux, pour aller vite. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup à l'histoire et à l'anthropologie religieuse.
Mais alors, justement, je ne vais pas vous demander de prophétie, Régis Debray, mais lorsque l'on voit le poids, la puissance du religieux à la surface de la planète, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a encore une grande cause qui se porte très très bien et que l'argent, enfin ce que vous appelez la civilisation, non pas industrielle, mais la civilisation de la bourse, la civilisation des financiers, eh bien, elle a encore à se battre contre la civilisation religieuse ?
Non, parce que la croyance religieuse et l'argent, ça va ensemble. Regardez les États-Unis, qui est à la fois une théodémocratie et une plutodémocratie, c'est-à-dire où l'impérium financier et commercial va de pair avec une foi religieuse officielle, puisqu'après tout, le président prête serment sur la Bible. Non, il ne faut pas laisser le monopole de la longue durée, le monopole des finalités aux croyances religieuses. C'est ça, à mon sens, l'enjeu de la laïcité, si vous voulez. Il ne faut pas que la politique abdique, il ne faut pas qu'on arrive à faire des villages de France, des villages américains, c'est-à-dire des villages où c'est le drugstore et le temple qui sont les deux lieux névralgiques et non l'école et la mairie.
Va-t-on vers cela ? Je parle du temple avec des polémiques incessantes sur la laïcité, polémiques sur le voile. Par exemple, avec là aussi des soubresauts, le fait que aujourd'hui une présidente, ou plutôt une dirigeante de l'UNEF soit voilée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Régis Debray ?
Ça m'inspire l'idée qu'il faut faire le point aujourd'hui sur la laïcité, et j'attends du président qu'il fasse une sorte de charte pour savoir à quoi s'en tenir, et non pas cette sorte de combat, de polémique incessante où chacun a son mot à dire et on ne sait plus ce que le mot laïcité veut dire.
Mais il a fait quelque chose
au Bernardin.
Il a fait un discours au Bernardin qui...
Mais pourquoi au Bernardin et ensuite au monde juif et ensuite au monde protestant, où c'était le premier, le monde protestant d'ailleurs. Alors bientôt, ce sera le monde orthodoxe et puis le monde bouddhiste. Non, au lieu de séparer la nation en communautés religieuses, il faudrait, au nom de la nation, s'adresser aux communautés religieuses dans leur ensemble, me semble-t-il.
Vous restez avec nous, Régis Debray. Bilan de faillite, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Gallimard. Et puis je rappelle donc le livre que l'on évoquait tout à l'heure, France-Amérique, un échange de bons procédés. C'est aux éditions Autrement.